Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation qui va bien au-delà d'une simple présentation, d'une présentation large et profonde de l'Observatoire de la laïcité et de cette réflexion sur l'identité, ce recadrage aussi peut-être sur le rationnel de la loi que vous avez cessé de rappeler, qui est effectivement essentiel. Et on voit bien qu'effectivement, bien des problématiques n'ont rien à voir avec la laïcité, qu'en réalité, il y a bien d'autres éléments liés à la loi et aux droits de chaque citoyen, aux droits et devoirs de chaque citoyen qui sont en jeu. Et merci pour conclure de cette vision de ce qu'est être français, cette matière vivante et riche que vous nous avez partagée ce soir, qui nous intéresse tous, hein, parce que c'est vrai que on est tous passionnés, c'est absolument passionnant, ces questions qui traitent du vivre ensemble et puis de notre société en transformation, dans un monde humainement en transformation, et effectivement, c'est une histoire, elle se continue. Mesdames et messieurs les auditeurs et les auditrices, je vois que Madame Anne Cantier, avocate, souhaite poser la première question. Si vous voulez bien vous présenter ensuite, hein, pour vous poser vos questions. Merci beaucoup par avance.
Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions et cet exposé brillant. J'aurais, comme tout avocat, nous sommes particulièrement curieux, et je suis encore plus dans la mesure où je travaille dans le domaine du droit social et du droit du travail au regard des grandes et petites entreprises. Et je voulais savoir si, à titre de curiosité, l'observatoire que vous présidez avait rendu un avis ou des observations particulières sur l'avis rendu en août 2018 par le CDH concernant notre fameuse affaire du voile, dans la mesure où la France n'a pas été jugée comme bon élève, en tout cas par les experts du CDH. Donc, je voulais savoir si vous aviez rendu des observations à ce sujet-là, et puisque je crois que le délai de 6 mois est désormais écoulé, et par ailleurs, qui était donné à la France, et par ailleurs, si vous n'aviez pas donné d'observation ou d'avis particulier, quel est votre avis en la matière, puisque, à mon sens, ça remet particulièrement en cause, vous l'avez évoqué brièvement, la loi El Khomri d'août 2015, de mémoire, et le principe de neutralité, à mon sens, est particulièrement ébréché.
Alors, l'observatoire n'a pas délibéré, donc nous n'avons pas émis d'avis ni sur la loi, ni collégialement, ni sur la loi El Khomri, ni sur la position prise par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons été interrogés, le rapporteur général ou moi, peut-être aussi quelques autres collègues, et nous avons rappelé que le Comité des droits de l'homme n'avait pas de force jurisprudentielle contraignante. Et sur la loi El Khomri, nous avons émis poliment mais fermement, avec d'ailleurs la Commission consultative des droits de l'homme, des doutes sur la constitutionnalité de cette rédaction, et plus la difficulté à l'interpréter que je vous disais. Alors, vous savez bien cela, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé là-dessus, mais le Conseil constitutionnel avait assez de questions difficiles qui lui étaient explicitement soumises par les requérants qui contestaient la constitutionnalité de la loi El Khomri pour ne pas prendre en plus ce sujet-là. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir une QPC un de ces jours pour y voir plus clair. Alors, nous avons recommandé à la ministre, Mme El Khomri, et ça n'a pas été changé par la ministre actuelle, de conseiller aux entreprises et aux syndicats de s'en tenir à la jurisprudence, aux 7 cas qui permettent de limiter l'expression, puisque ça, c'est du solide et c'est établi. Et donc, de faire une interprétation dont je reconnais qu'elle est un peu osée, mais la ministre a bien voulu suivre notre suggestion, y compris dans une brochure de la Direction générale du travail, en disant: voilà ce que dit la loi. Maintenant, vous avez la jurisprudence sur laquelle vous pouvez vous appuyer.
Merci. Ce qui ne rend pas la tâche très facile.
Je sais bien. Je sais bien.
Je m'élève en revanche beaucoup sur le sondage que vous évoquez concernant les DRH, parce que consulté par des grosses institutions privées, je peux
vous avez beaucoup plus de difficultés que ce que donne le sondage.
Le terrain du droit du travail et de créer des motifs de licenciement pour se débarrasser, et j'utilise volontairement ce terme, de certains salariés qui gênent, pour éviter, quand j'évoquais l'hypocrisie, nous y sommes, et ce sont de grosses institutions Vous parliez de sociétés, notamment de services informatiques. Elles sont en plein dedans. Quand elles ne souhaitent pas, quand elles ont un principe de neutralité, par exemple, dans le règlement intérieur, qui est porté en brèche par certains salariés, en entreprise, parce qu'ils le savent, une société de services informatiques qui a 40 ou 50 000 salariés dans le monde et qui souhaite avoir un règlement intérieur avec un principe de neutralité, dont on connaît la portée un peu discutable, se retrouve dans des situations extrêmement difficiles. Sur le type, sur le foulard.
Bien sûr, c'est du foulard dont on parle.
Beaucoup d'entre.
Cela dit, Micropole est sans doute intéressant, enfin, pour l'usage qu'on peut en faire, et comme ça a été fait, cours d'usine, d'Union européenne, cours de casse, cours d'appel, ça a quand même une grande solidité.
Oui.
Alors c'est pas. Donc on retombe sur le critère intérêt commercial de l'entreprise ou pas, qui est le critère traditionnel de la jurisprudence.
On est d'accord.
Le caprice, entre guillemets, d'un client, c'est très compliqué à caractériser. Autant l'hygiène, la sécurité, le prosélytisme, c'est assez facile, autant l'intérêt commercial de l'entreprise, c'est le plus difficile. Mais c'est la liberté d'entreprendre et la liberté de conscience. Hein.
Après, vous évoquiez l'hygiène, la sécurité, qui sont des éléments faciles pour certaines entreprises qui ont des activités sur lesquelles on peut utiliser ces éléments-là. En revanche, dans des sociétés de conseil, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui. Il y a des cas aussi où le fait d'avoir réfléchi et travaillé en amont, à l'intérieur de l'encadrement de l'entreprise, et quand c'est possible, quand les relations social le permet avec les syndicats, permet de déminer certaines situations et de cesser de se mettre d'accord quand il y a dialogue. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une formation pour la branche caoutchouc. La branche caoutchouc, c'est Michelin, Goodyear, des grosses entreprises multinationales, à l'invitation de la fédération CFDT de la branche caoutchouc, mais qui avait invité au séminaire qu'on a tenu les représentants patronaux avec qui ils avaient de bonnes relations. Et ça a été tout à fait intéressant de discuter ensemble. Qu'ils discutent ensemble. Moi, j'étais là plutôt comme un témoin, un conseil. Quand ils se sont interrogés sur qu'est-ce qu'il faut faire comme paquet pour le nouvel an, et s'il faut faire des paquets avec ou sans viande, avec ou sans bonbons, parce qu'il y a de la gélatine, j'ai dit que je n'en savais rien, et que c'était à eux de voir le sujet. Et puis, on a eu des cas amusants, plutôt d'un syndicaliste, en l'occurrence, qui dit, mais nous, on a un imam comme employé. Il dit, je sais bien qu'il a le droit, mais il lit le Coran sur son poste de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je pense que lire quelque chose sur son poste de travail, que ce soit le Coran ou pas, est extraordinairement dangereux. Voilà. Mais donc, on a eu des échanges très libres. Enfin, c'est un cas exceptionnel. Hein. Je ne dis pas que ça se passe partout comme ça.
Voici Kamel, sous-préfet de Dreux.
Merci, monsieur le ministre, pour cet exposé passionnant. Juste avant la question, je voudrais vous remercier pour les propos humains que vous avez eus pour la mémoire de l'émir Abdelkader, sachant qu'on doit bien évidemment assumer l'entièreté de l'histoire de notre pays. La reddition de l'émir Abdelkader s'est faite au duc d'Oman, le fils de Louis-Philippe, sur la condition qu'il pouvait aller rejoindre la Syrie.
La Syrie, pas l'Irak, j'ai dit l'Irak, c'est la Syrie, oui.
À Damas, et malheureusement, la parole n'a pas été tenue par le duc d'Oman, et il s'est retrouvé au château d'Amboise, où il a perdu une quinzaine des membres de sa famille, ses enfants, ses cousins. Il y a un cimetière que je vous invite à aller voir au château d'Amboise. Et finalement, c'est Napoléon III qui a tenu la parole de la France.
De la France.
De la France. Et ensuite, bien évidemment, l'émir Abdelkader a œuvré beaucoup pour la France. Et deux de ses fils, dont un a péri au cours de la Première Guerre mondiale, dans l'armée française.
Voilà. Vous avez raison, je ne savais pas pour ses fils, mais l'histoire du duc d'Aumale et d'Amboise, il faut aussi la raconter si on veut voir toute l'histoire.
Voilà, si on veut voir toute l'histoire, et pour montrer que chacun prend un mot. Donc voilà, merci d'avoir appelé la mémoire de l'émir Abdelkader. Moi, j'avais une question en cette période d'élection qui est très récurrente de la part des élus et de la population, c'est sur les bureaux de vote et sur les assesseurs. Beaucoup de maires ruraux s'impatientent du fait que des assesseurs femmes viennent avec un foulard sur la tête. Ils estiment que c'est contraire à la tenue du bureau de vote. La préfecture leur dit non, mais ça passe pas. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage?
Alors écoutez, là-dessus, il faut qu'en effet on retravaille cette question, parce que moi j'ai la conviction que dès lors qu'on tient un bureau de vote, on remplit une mission de service public. Si vous voulez, ce que nous on a dit avec certitude, en tout cas dans l'esprit de la loi, pas dans un texte qui le dise avec fermeté, c'est que un élu, je dis bien un élu, Il est élu avec ses convictions politiques, philosophiques, éventuellement religieuses, et qu'il a bien le droit d'en faire état. Pour être concret, parce que c'est un cas qui nous a été soumis, Mme Valérie Boyer a parfaitement le droit de porter une grande croix. Et comme une autre a le droit de porter un foulard. Y compris de siéger au conseil municipal avec croix, foulard ou pipa ou autre chose. Mais quand on est officier d'état civil, qu'on fait un mariage, quand on est officier de police judiciaire, qu'on s'occupe de l'ordre public, alors on n'est pas monsieur un tel ou madame un tel, maire ou adjoint. On est la commune, on est la collectivité, et là on doit être neutre. C'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire sur le bureau de vote, autant on peut aller voter avec un signe, à condition de ne pas causer de désordre par son signe religieux et évidemment surtout politique dans un cas de ce genre-là, autant sur le bureau de vote, mais je vérifierai, je demanderai...
Le code électoral ne vise que le président.
Ah
oui. Le président.
Bon, il faut que je... Merci de m'avoir posé ça, je reviendrai vers vous, hein, parce que dans l'esprit de la mission, pour moi c'est une mission de service public et d'intérêt général. On n'est pas... D'ailleurs l'assesseur n'est pas là, même s'il a été désigné par le parti X ou Y. Il est là pour participer au bon déroulement du scrutin. Donc il est dans quelque chose qui dépasse son identité partisane.
Mais il n'est pas agent, il n'est pas rémunéré.
Il n'est pas rémunéré. Mais c'est comme les élus qui encore une fois, font un mariage ou exercent une fonction de police.
Vous avez vu le cas à Marseille d'un rabbin refoulé d'un bureau de vote ?
Oui, mais lui, c'était pour voter.
C'était pour voter.
On a failli empêcher le rabbin, c'était à Toulouse d'ailleurs. On a failli l'empêcher de voter. Il y a eu débat au sein du bureau de vote et on a considéré à juste titre qu'il avait le droit de voter. Mais vous avez le même problème dans le domaine de la justice. Évidemment que les magistrats n'ont pas apporté un signe, y compris dans les cours d'assises, mais un témoin, quelqu'un qui est appelé, peut porter un signe.
Merci.
Lydia Jamigan, oui, conseil régional de France. Comment tu peux continuer à te présenter si tu veux, Lydia. Je me permets pour meubler, mais.
Oui, conseil régional de France. Donc, j'ai une question par rapport à la charte de la laïcité que souhaitait porter la présidente de la région, et juste une observation pour partager. Enfin, juste avant, parce qu'on parlait de. Tu faisais référence à Babylou, du coup, tout à l'heure. La crèche Babylou.
L'avis du CDH. Sur
Pour information, quand on parlait du mariage, j'ai eu l'occasion de marier son fils à cette dame. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle avait dû divorcer, parce que du coup, elle a perdu son mari pendant des années de procédure.
Enfin, pour donner le contexte particulier, c'est un contexte qui est un peu politico-religieux, et non pas un contexte d'une femme. Qui peut-être en a fait le combat de sa vie. L'avocat de la salariée est bien connu, c'est Michel Henry, un avocat brillant, mais qui en fait une bataille politique, et qui ne s'en cache absolument pas, et qui en fait, avec brio, une belle histoire pour lui. Mais c'est plus un choix politico-religieux.
C'est juste l'anecdote que vous voulez montrer.
Ça dit, les faits sur Babylou sont compliqués, hein, très compliqués. Parce que la dame qui a été licenciée avait déjà un foulard, moins marqué que celui qu'elle a eu ensuite quand elle est revenue d'une période de congé. Et le règlement intérieur n'était pas établi. Mais le départ, nous on a vraiment auditionné beaucoup, beaucoup toutes les personnes concernées. C'est aussi un conflit entre deux personnes qui sont fondatrices de la crèche, co-fondatrices de la crèche. Et un débat sur le montant des indemnités de licenciement avant d'être un débat politico-religieux. Voilà. Après, la Cour de cassation, et il y avait matière à hésiter, à beaucoup hésiter, a fini par dire que dans ce cas, compte tenu de la petite taille de la crèche, du fait qu'elle fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on pouvait imposer cette clause de neutralité. Mais nous attirons l'attention en disant que c'est un jugement sur Babylou, dans cette crèche-là. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de contentieux sur des crèches, mais ce n'est pas garanti qu'on aurait toujours la même réponse dans toutes les situations. Enfin, votre question était sur la charte de la laïcité de la région.
Sur la charte de la laïcité de la région, l'idée c'était, j'ai assisté donc, en tant qu'élu aux différents débats avec les élus de l'opposition, et donc un des élus a apporté le commentaire, parce que l'idée c'était signature ou pas de la charte, et donc du coup si des centres, les bases de loisirs qui sont avec, sous la tutelle de la région, qui sont financés en fait, par la région, devait s'engager à signer la charte pour pouvoir bénéficier des financements. Et là, la réponse qu'on a eue dans l'une des dernières réunions qui s'est tenue il y a deux ou trois semaines, c'était un des élus de l'opposition qui se faisait un peu porte-voix d'un des présidents d'une des bases de loisirs, je crois, en Seine-et-Marne, qui dit ok, il va la signer, mais il fera ce qu'il veut. Donc en fait, ma question, c'est est-ce que cette démarche dont on entend parler, qui est de s'engager dans des démarches de signature de charte, est-ce que derrière, ici à l'Observatoire, on a des indicateurs qui mesurent, est-ce qu'on le fait pour la forme, parce qu'à un moment donné, la laïcité est devenue le sujet sur lequel tout le monde doit se mettre en raccord, avec derrière des indicateurs, est-ce que vous recensez toutes ces chartes avec des indicateurs qui permettent de dire les engagements étaient tenus, ou c'est un peu dans la sphère, comment dire, politique, où tout le monde se gargarise de signer son truc sur la laïcité, et que derrière, il n'y a pas de suite.
Alors, nous n'avons pas de statistiques. Hein. Il faut savoir qu'on est une très petite équipe, qu'on est 4 salariés, en plus du président bénévole, et qu'on a un budget de 70 000 euros. Donc, on n'a pas les moyens d'avoir ça. J'ai quelques indications. D'abord, en droit, je suis assez convaincu qu'on ne peut pas, à cause de la libre administration des collectivités locales, conditionner au respect de la charte régionale le versement de subventions à des collectivités locales de rang inférieur. Ça, je crois que ce n'est pas possible. D'ailleurs, la charte a été, à ma connaissance, modifiée en ce sens pour tenir compte. Elle a été adaptée. Bon. Voilà. Alors après, qu'il y ait une déclaration de principe, un débat, à la fois au niveau d'un conseil régional, éventuellement de l'administration et des bénéficiaires de subventions, moi, ça me paraît plutôt bien, parce que c'est important qu'on en parle, qu'on comprenne des désaccords qu'on peut avoir, qu'on sache ce qu'est le droit. Après, pour savoir si on peut subventionner ou pas une association, c'est la question de service public. Est-ce que ce centre, cette base de loisirs, centre de loisirs, exerce une mission de service public ? À ce moment-là, il est tenu de toute manière, même s'il n'y a pas de charte, à une obligation de neutralité. Mais c'est la nature de la mission. Et on peut être service public, comme vous le savez, soit parce que la loi a déclaré que c'était un service public. Exemple, la formation professionnelle, ce que beaucoup de gens ignorent. Depuis 2004, la formation professionnelle est un service public. Donc nos intervenants formateurs de formation professionnelle doivent être neutres, ce que beaucoup de gens ignorent complètement. Soit il y a une délégation de service public, c'est-à-dire une mission confiée par la commune, le département, la région, soit il y a un certain nombre d'indices concordants sur les obligations, l'évaluation, le financement. Alors nous avons travaillé là-dessus avec les caisses d'allocations familiales. La CNAF a fait une charte et on regarde au cas par cas, on a un comité de pilotage avec un conseil d'État, s'il est légitime ou pas d'accorder ou de refuser pour une CAF une subvention, par exemple des associations comme le Secours catholique ou les scouts. Voilà, mais pour le bénéficiaire, la question c'est mission de service public. Et on ne peut pas, par exemple, moi j'ai vu des cas de communes où il y avait des choses comme interdiction de texte autre qu'en français pour un centre social. Je pense que s'il y avait un recours devant le tribunal, cette clause-là ne passerait pas.
J'ai une question, si tu peux mettre, bonjour, monsieur le ministre, merci pour votre exposé. Cette image approche à la préfecture de la région et le cabinet du préfet sur les questions de laïcité, de prévention de la radicalisation et de dialogue avec les cultes. Et du coup, j'ai une question, la position peut-être de l'Observatoire sur les aumôneries en prison. Autant on est un peu au clair avec les aumôneries à l'hôpital, les aumôneries militaires, autant sur la question de la formation des aumôniers pénitentiaires. Je suis formatrice en CGET, j'ai initié depuis l'année dernière un projet de formation ensemble des aumôniers de la région de France. Donc on attaque là en mai une deuxième session. Et je sens que c'est quand même un réel besoin d'ensemble des cultes qui interviennent en prison, y compris les témoins de Jéhovah.
Bien sûr.
On les a eus en formation l'année dernière. Et je n'entends pas sur l'Observatoire des projets un peu spécifiques autour de la pénitentiaire, y compris le culte. Également sur le personnel pénitentiaire, même s'ils ont des programmes autour de la laïcité.
Alors si nous avons eu l'occasion de le dire, d'abord, vous le savez bien, mais je rappelle que l'article 2 de la loi 1905 qui dit que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, reconnaît, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion d'État. La République n'est pas de ville, pas de pas savoir qu'il y a des cultes. Ne salarie, ni subventionne, on a alors des antécédents historiques, c'est toute la question des Outre-mer et en particulier de la Guyane sur lequel il y a eu une décision du Conseil constitutionnel ou l'Alsace-Moselle, et puis le fait qu'il y ait des milieux fermés. Et là, il est dit clairement qu'on peut financer des aumôneries dans des internats à l'armée ou dans les établissements pénitentiaires ou même des services d'aumôniers dans les hôpitaux. Donc la loi de 1905 le prévoit dès le départ, si on veut dire que c'est pas une loi du tout anti-religieuse. Et nous avons recommandé, d'abord, il y a un problème de rémunération. Certaines religions arrivent à mettre un peu de mutualisation, pas toutes. Ce qui fait d'ailleurs que pour les aumôniers musulmans en particulier. La majorité d'entre eux vient à temps très partiel, le vendredi. Et donc l'aumônier musulman des prisons a suggéré à la garde des Sceaux, qui semblait intéressée, et nous avons trouvé l'idée intéressante, de voir s'il ne pourrait pas y avoir une convention avec moins d'aumôniers, mais à temps plein, pour gagner la confiance à la fois des responsables administratifs de la pénitentiaire et des prisonniers. Et nous avons recommandé, et c'est décidé maintenant, donc il faudrait l'appliquer, mais formellement la décision est prise, que tous les nouveaux aumôniers de prison aient une formation par le diplôme universitaire Laïcité, Valeurs de la République. Un diplôme qui a été mis en place à notre demande, il y en a une vingtaine maintenant en France, c'est 120 heures de formation, c'est obligatoire pour les imams qui viennent de l'étranger, enfin les ministres des cultes, mais enfin c'est surtout les imams qui viennent de l'étranger, et c'est obligatoire pour tous les nouveaux aumôniers de prison.
Les anciens, tous les aumôniers de...
Les anciens, c'est dans la mesure des moyens disponibles et s'ils peuvent le faire, mais on n'a pas pu l'obtenir pour les anciens, pourtant ce serait nécessaire aussi. Mais en tout cas, pour les nouveaux, les futurs, quelle que soit la religion, bien entendu.
Depuis octobre 2017.
Voilà.
Octobre 2017. Pour tous les aumôniers.
Oui.
Pour les contractuels. Hein.
Les contractuels. Mais la question posée était, à juste titre, principalement sur les prisons. Alors, il va de soi que, notamment la question qui nous est posée parfois dans les hôpitaux, un aumônier est là pour répondre à une demande, il n'est pas là pour faire de la propagande. Et donc, puisqu'il est payé en plus par l'hôpital. Donc, il y a un contrôle à faire.
François.
Oui, monsieur le ministre, je vous prie d'excuser, mais je n'ai pas très bien compris votre position concernant l'alimentation collective, autrement dit les cantines. Vous avez semblé dire que vous n'étiez pas favorable au menu de substitution. Alors, est-ce que c'est...
Non, j'ai dit que je n'employais pas l'expression menu substitution. Je suis pour des repas avec du choix des menus différenciés.
D'accord.
Mais pas substitution, parce que c'est uniquement à caractère religieux.
D'accord,
c'est une expression que je ne veux pas employer.
Okay.
Mais je suis favorable, nous sommes favorables, et on n'est pas les seuls à des menus différenciés,
d'accord,
offrant du choix.
Voilà,
c'est une simple
possibilité.
Non, mais...
Alors, Domiti, et puis Thierry.
Vous disiez, Domiti l'arrivée, je suis journaliste. Vous disiez que vous aviez un budget de 70 000 euros. Si vous aviez 70 millions d'euros, comment vous les dépenseriez
si on avait un peu plus d'argent, on aurait un peu plus de personnes pour établir des statistiques, des comptes rendus. Mais surtout, on pourrait faire des recherches. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'une vingtaine de chercheurs associés à l'Observatoire, je dirais par amitié et bonne relation, mais on est évidemment incapable de faire des appels d'offres pour la recherche. Alors, on fait un point ensemble et on soutient auprès des universités des projets de recherche qui nous paraissent intéressants. Mais ça, typiquement, c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire et on n'a pas besoin de 70 millions d'euros pour ça. Je précise quand même qu'on a des bureaux mis à disposition par le ministère, par les services du Premier ministre. Donc, on a 70 000 euros plus 4 postes plus des bureaux. Parce que parfois, on me dit, mais vous dites pas, vous avez des bureaux. Si, si, on a aussi des bureaux. Qui sont d'ailleurs pas loin d'ici et qui sont corrects.
Oui, Thierry Lebrel, pasteur aumônier hospitalier et aumônier aux armées de la Fédération protestante de France. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le fait qu'il n'était pas nécessaire, à votre avis, de modifier la loi 1905. Pourtant, vous avez souligné qu'il fallait accroître la transparence au niveau de la comptabilité. Vous avez évoqué la police des cultes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que finalement les changements nécessaires seraient opérés via le Code général des impôts pour ce qui concerne la transparence et via le Code pénal pour ce qui concerne la police des cultes?
Alors probablement, encore une fois, nous n'avons pas été saisis formellement. Nous avons travaillé notamment avec le ministère de l'Intérieur là-dessus et nous avons entamé un travail avec à la fois la direction compétente et le cabinet du ministre sur ces questions. Donc, en première approche, il nous semble que ça doit être possible, et en tout cas, ce serait très souhaitable. Mais c'est à vérifier, code pénal d'un côté, code général des impôts de l'autre, sans parler, sans oublier les visites sur place et les contrôles sur place qui peuvent être faits demain, sans besoin d'un texte nouveau. Alors après, il y a toute la problématique, vous le savez, mais c'est un peu tard pour rentrer dedans. Faut-il mettre tout le monde en 1905 et pas en 1901, ce qui pose des problèmes, par exemple aux protestants, mais pas que. Ça pose des problèmes à beaucoup d'associations qui ont un côté culturel d'un côté et social, solidarité de l'autre. Ça vaut pour le Secours catholique, par exemple, aussi, mais pour d'autres également. Et donc, comme le gouvernement l'avait envisagé à un moment donné, ça compliquerait beaucoup la vie des associations cultuelles. Alors, une variante est de mettre certaines obligations sur 1901 pour la partie culturelle sans obliger à faire deux associations. Mais ça, c'est On attend des propositions du gouvernement là-dessus.
Merci.
Est-ce que vous pensez qu'il faut en France financer la formation des imams en France ?
Oui, pour la formation républicaine, non pour la formation religieuse. Ce n'est pas notre affaire.
C'est-à-dire pour le diplôme universitaire ?
C'est les diplômes universitaires qui nous paraissent extrêmement bénéfiques au total parce qu'ils se mélangent des gens différents, des ministres actuels ou futurs différents, et puis parfois des jeunes chercheurs, des étudiants, et ça permet de réfléchir ensemble aux questions de laïcité.
Mais ça ne forme pas à l'imam, il n'y a pas
imam. Non, mais et nous, nous n'avons pas à nous prononcer sur la formation religieuse. Par contre, nous disons qu'il serait bon qu'on retrouve, et il y a eu quelques efforts de fait, des postes qui ont été ouverts suite à nos demandes de ces dernières années, d'islamologie. On a une tradition française d'islamologie remarquable, avec des gens qui malheureusement sont morts, et on a des jeunes chercheurs qui sont connus, que nous connaissons. Par parenthèse, on donne toujours leur liste aux médias pour leur dire, au lieu d'inviter toujours les mêmes, voyez des jeunes chercheurs compétents, on a du mal à sortir des figures obligées quand on a un débat sur la laïcité, mais bon. On a des gens qui peuvent constituer des aspects de théologie critique, d'aspects contextuels, d'aspects philosophiques, et non pas des enseignements du dogme religieux. Et là, on est tout à fait favorable à ce que l'université se développe. Alors, il y a l'Université catholique de Paris, pour une part, le fait. Strasbourg le fait aussi pour une part.
Le PHE.
Le PHE, bien sûr, aussi. Donc, c'est capital. Alors, c'est capital pour éclairer la pensée, pour éclairer les croyants et les non-croyants, et aussi en termes d'influence de la France. Si on arrive à faire ça, avec en plus une évolution que je souhaite, moi, d'une certaine sécularisation, mais qui n'est pas gagnée en France, on peut avoir en France, sans prétendre donner des leçons à la terre entière, un islam de conviction plus moderne, plus porteur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un projet de mosquée mixte, là, qui est assez intéressant, et avec une recherche islamologique. Donc ça permet de servir de référence aux gens qui veulent faire évoluer la religion, leur pratique de la religion ou l'organisation religieuse dans leur pays.
Je me permets, mais effectivement, le recteur de la grande mosquée Al-Azhar a fait son doctorat en France,
oui.
Et est francophile. Donc. Et c'est
tout
vrai
à fait.
Que ça a permis un certain nombre de choses, notamment en lien avec l'Institut catholique de Paris.
Exactement.
Il y a quelques années.
Et à des positions assez ouvertes.
À des positions ouvertes, oui. Monsieur Bâtonnier, je crois que vous aviez...
Cher Jean-Louis, je pense que tu serais étonné que je ne te pose pas de questions, alors je vais t'en poser. Je vais te remercier moi aussi pour ton intervention. J'ai trouvé que par discrétion, tu parlais plus de la laïcité en général que de l'observatoire que tu présides. J'avais prévu une question sur le budget, tu y as répondu spontanément, puis sur la question de Domiti. Mais j'ai d'autres questions. Sur les missions génétiques, diagnostiques et avis consultatifs, mais avant d'aller voir sur le site, est-ce qu'il n'y a pas une liste de missions plus précises de l'Observatoire?
Il y a le décret qui nous a créé, qui est très général, en disant que l'Observatoire peut faire des études, recommander des études, faire des suggestions au gouvernement. C'est un terme très générique.
Très générique. Bon, il n'y a pas plus. Alors, j'ai deux
questions. Mais simplement, sur le contenu même des avis que nous avons rendus, ou des communiqués que nous avons faits, il y en a une vingtaine. On voit la gamme, encore une fois, des sujets. Par exemple, l'Alsace-Moselle, nous avons travaillé proprio motu, sans avoir une demande explicite du gouvernement. Ça nous paraissait un sujet important. Ou les faits religieux le voient à l'université.
Alors, deux questions. Est-ce que l'Observatoire a déjà été sollicité dans une procédure judiciaire au titre d'amicus curiae?
Oui, plusieurs fois.
Ça, c'est intéressant, ça.
Plusieurs fois. Mais on ne peut pas en faire état tant qu'on n'est pas allé au bout de la procédure.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est arrivé, c'est
fois.
Assez légitime.
Ça a été fois, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marie?
Ça veut dire qu'on demande l'avis comme ami de la Cour, à un
sachant. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti au procès,
oui.
Mais le tribunal, la juridiction, entendu. Demande l'avis d'un
ça a été fait plusieurs fois. Oui.
Ami de la Cour.
Y compris au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, une fois.
D'accord. Très bien. Autre question. Qu'est-ce que tu penses du concept évoqué, je suis sûr que tu vas le balayer, mais malgré tout, le concept de laïcité positive. Tu as dit au départ, la laïcité tout court. Mais on voit germer dans les journaux, dans les écrits, dans les... la laïcité positive. Y en aurait-il une négative ?
Voilà, tu as répondu à la question. La laïcité positive est une formule de Nicolas Sarkozy dans son célèbre discours du Latran, où il a expliqué que jamais un instituteur ne serait aussi utile qu'un curé. pour une France république laïque, c'est un peu surprenant. Oui. Quoi qu'on pense d'aller au Latran ou pas, c'est un sujet de débat entre les laïcs purs et durs et les moins purs et moins durs. Donc pas d'adjectif, ni d'inclusion, ni ouverte, ni de combat, ni de fermeture. Et en particulier, laïcité positive sous-entendrait que la laïcité, elle est ce que j'ai essayé de dire ce soir, elle est ce que le droit dit, elle est ce que la jurisprudence dit.
Alors une dernière question. Tu as dit au début qu'un sondage relevait dans l'ensemble une bonne connaissance de la laïcité, mais une hausse des crispations sur le sujet. C'est schizophrénique.
Non, c'est qu'il y a un décalage entre le droit et la pratique. Dans la pratique, il y a des conflits. Dans le droit, les gens connaissent à peu près ce que c'est dans le droit, ce qui est permis, pas permis, et ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ça n'empêche pas des conflits sur comment on applique le droit.
C'est pour ça qu'il y a des avocats.
C'est pour ça qu'il y a des avocats et des juges. Est-ce que je peux terminer peut-être par une citation, si on a encore 2 minutes, sur l'identité, justement.
Alors, vous prouvez, si je peux me permettre, cet ouvrage, il est sorti en 2016 ?
2016, oui.
Dans une maison d'édition qui est à la base une maison d'édition fondée par des religieux.
L'édition de l'atelier ?
Ouais, l'édition de l'atelier, chez les chrétiens sociaux, je crois que c'est pas des jésuites du 19e siècle, c'est une des plus vieilles maisons d'édition.
On a le droit d'être jésuite et d'avoir une maison d'édition.
Exactement.
Mais je ne savais pas.
Donc vous voyez...
Alors, c'est à propos de l'identité de la France, des propos de François Mitterrand lors d'un colloque organisé le 18 mai 87 à la Sorbonne, 1987. Qu'est-ce qui nous oblige à considérer que nous devons nous placer de nous-mêmes dans un musée, objet derrière une vitre, auquel personne ne pourra toucher ? Nous sommes Français, nos ancêtres les Gaulois, un peu Romains, un peu Germains, un peu Juifs, un peu Italiens, un peu Espagnols, un peu Portugais, un peu Polonais. Et je me demande si nous ne sommes pas déjà un peu Arabes. Je reconnais que voici une phrase inquiétante. C'est celle-là qui sera épinglée. Ayant compris cela, je souhaite qu'à travers les générations, les Français qui viendront après moi, fiers de ce qu'ont été ceux d'avant, considèrent que ceux d'après, ceux du siècle prochain, seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des Français plus proches de l'universel et donc de la compréhension des affaires du monde. Merci à vous. Et donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je vous donne une réponse sur les bureaux de vote. Hein. Question pertinente, il faudrait la trouver vite parce qu'on va voter bientôt. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions dans vos fonctions ou si vous souhaitez qu'on intervienne, hein. On essaie de se rendre disponible pour des débats, des formations le plus possible parce que c'est vraiment le cœur de notre mission. Et puis ça nous permet à nous d'être bien informés en allant dans des lieux différents. On connaît mieux la réalité, on a des très bons retours des administrations, mais ça nous permet aussi à nous d'enrichir notre connaissance. Donc n'hésitez surtout pas.